Et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM et DAB+ pour aujourd'hui une fois de plus parcourir l'actualité geek et ludique. Aujourd'hui nous sommes trois pour animer cette émission. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Bonjour tout le monde.
Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir trois invités autour de cette table et nous allons plonger pour le coup dans le dur, dans le vrai ludique, avec Victor Dotteville.
Bonjour à tous.
Alors, vous êtes, hein, vous trois, vous avez le même poste, pour une fois c'est simple, vous êtes tous les trois cofondateurs, alors sachant qu'il y en a un quatrième qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on en parlera plus en détail, d'un service de recommandation de location de jeux de société qui s'appelle Pulpo Ludo.
Pulpo Ludo, c'est bien ça.
Avec nous également Justin Boucli.
Bonjour à tous.
Et Pierre Lejeune.
Bonjour.
Merci à vous trois d'être avec nous pour cette émission. Et vous le savez, on en parle surtout récemment puisqu'il y a les As d'Or. Donc on aime bien un peu comme ça aller explorer ce qui se passe dans l'univers du jeu de société. Et vous êtes, est-ce qu'on peut dire tous les trois un peu des spécialistes?
Bah, je pense que pour tous les trois, ça fait... On joue depuis qu'on est jeune. Enfin, moi, j'ai dû commencer...
Comme si vous étiez vieux.
Petit. Non, mais je pense que mon premier gros jeu, ça devait être les Colons de Catane, quand je devais avoir 10 ans, quelque chose comme ça. Et voilà, et depuis, je joue.
Alors, il devance la question qu'on pose actuellement.
Excusez-moi.
Pour te dire à quel point c'est un spécialiste.
Alors effectivement, on adore un peu parcourir un peu comme ça les routes. Quels sont un peu le parcours de nos invités? Alors toi, tu as commencé par les Colons de Catane. Qu'est-ce qui vous a initié, vous autres, dans l'univers du jeu de société?
Personnellement, j'ai commencé dans mon école d'ingénieur, en fait, qui est juste à côté de Radio Campus. Il y avait l'association Polygames à Polytech Lille et j'y suis allé pour suivre un pote là-bas. Donc pendant 3 ans, j'y ai découvert énormément de jeux. J'ai eu la chance d'être secrétaire pendant 1 an. Ça m'a permis de découvrir en plus Ludinor avec un ancien qui nous a dit « Venez, venez, il nous faut des bénévoles ». On a découvert en plus le festival comme ça pour expliquer des règles. Et après Polygames, il y a eu l'étoile du jeu à Mont-Saint-Barreul. Et de plus en plus de jeux à la maison, de plus en plus d'après-midi jeux, de soirées jeux, jusqu'à maintenant.
Et Justin ?
Ouais, donc quant à moi, j'ai commencé à jouer avec mes frères, donc avec des jeux très classiques, hein, le Monopoly, le Trial Pursuit que tout le monde connaît.
Richesse du monde et tout.
Exactement, ouais, voilà.
Team Richesse du monde.
Et sinon, mon premier gros jeu, je pense que ça a été Keylus, qui est peut-être un petit peu moins connu, mais c'est le premier gros jeu auquel j'ai joué, quoi.
À niveau
et donc, ouais. Donc ensuite, je me suis vraiment pris pour vraiment une vraie passion autour de ces jeux modernes. Donc j'ai intégré effectivement l'étoile du jeu, comme Victor et Pierre. Et voilà, du coup, après, on a créé Pulpo Ludo, dont on va parler juste après.
Alors, l'étoile du jeu, pour...
C'est l'association qui organise Ludinor, tout simplement.
Elle est à l'origine du festival, en effet.
Et qui a monté, en fait, à l'étoile du Nord, c'est la Fée des Jeux qui regroupe toutes les associations, clubs, et encore toutes, il y en a tellement. Il y en a des nouvelles, peut-être, chaque semaine, du Nord et du Pas-de-Calais.
Ouais. Mais l'étoile du jeu, elle est basée sur Mons, c'est ça ?
Mons-en-Barreul,
oui. Mons-en-Barreul,
ouais.
Alors, est-ce qu'on peut parler de votre quatrième compatriote, rapidement?
Du coup, le quatrième s'appelle Pierre Guiraud. Actuellement, il est à Londres et en fait, il était sur le projet avec nous au tout début, quand on a lancé. Mais dès le départ, il nous avait annoncé que lui, il ne serait pas opérationnel. Ça l'intéressait de nous suivre et de nous aider sur là où il pouvait, mais sans prendre un poste en particulier sur Pulpo Ludo. Et donc voilà.
Mais quand vous aurez un chiffre d'affaires de plusieurs millions, comme par hasard, vous partez.
Il a un pourcentage de l'entreprise.
Ah, voilà.
Alors,
c'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein.
Merci.
Alors, comment on en vient d'être bénévole dans une association, de faire un peu les festivals comme ça, à créer sa propre entreprise dans l'univers du jeu de société, avec un concept. Alors, on n'est pas dans la boutique qu'on peut voir habituellement ici. Ici, vous allez fournir donc un système de location. Mais ajouter à cela, ce qui est extrêmement intéressant pour justement les joueurs, un service de conseil également. Alors comment vous est venue l'idée ? Comment est-ce que vous êtes rassemblés autour de ce projet ?
Alors déjà, il faut savoir qu'on s'est rencontrés à l'Étoile du Jeu justement et au sein de Ludinor. Donc au fur et à mesure de jeux ensemble et de temps de préparation de festival, on a appris un peu à se connaître. Et puis il y a un jour comme ça, il y a Victor qui nous a dit... Bah, j'ai envie de faire un truc. Venez chez moi, on discute. Et on a réfléchi justement à la création d'un projet autour du jeu, mais qui serait quelque chose de nouveau. Parce que les boutiques, on les connaît. Le festival, c'était pas notre vocation. Le bar à jeu, c'était pas notre vocation non plus. Et on se disait, qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau dans le jeu de société, en tant que nous, joueurs depuis plusieurs années, qui avions vu le fait que déjà, les jeux, au bout d'un moment, ça coûte cher. On sort pas toute notre ludothèque sur un an de jeu. Il y a toujours de nouveaux jeux qui sortent et moi, j'ai envie d'aller les voir. Et en plus, faut apprendre les règles et quel jeu va me plaire forcément. Donc, il y avait plein de questions qui se posaient et auxquelles on avait envie de répondre. En apportant ce qu'on connaissait du monde du jeu.
Vous étiez dans quelle situation ? Vous étiez, peut-être pas au chômage, vous venez de finir vos études. Qu'est-ce qui vous, le fait de faire un projet, c'est quelque chose, mais de monter une boîte pour ça, c'est un petit peu une niveau au-dessus.
Alors en fait, non, on ne sort pas d'études, on a tous travaillé au moins 3 ans, 3-4 ans. Si on parle un peu de notre parcours professionnel, moi par exemple, j'ai fait donc la compta gestion, et après je me suis orienté vers le contrôle de gestion, donc vraiment rien à voir avec les jeux de CT.
Et que certains jeux.
Ouais, c'est vrai. La question stratégie, gestion de jeu, ouais, c'est... du coup, on s'est rassemblés vraiment. Victor, si tu veux parler un peu ton parcours professionnel.
Ouais, moi, à la base, j'étais un ingénieur matériaux, donc rien à voir. Mais même pendant mes études, j'ai toujours eu envie de créer ma société. Et clairement, il y avait l'idée de faire ça autour du jeu de société. C'est une passion, donc clairement, j'avais envie de créer quelque chose, j'avais envie d'être vraiment le porteur de projet d'un projet qui me correspond et pour lequel je sois à l'origine. Et c'est comme ça qu'est né aussi Populudo.
Et inventer ou créer un jeu, comme beaucoup le font, c'était pas suffisant.
Alors, si, en fait, il y avait cette idée-là aussi. Non, mais la maison d'édition ou être auteur de jeu, c'était une possibilité. Mais je me souviens, il y a ma copine qui me challengeait par exemple par rapport à ça et qui me disait « Mais qu'est-ce que tu vas apporter de plus ?» Parce qu'au final, une maison d'édition, ils s'en créaient déjà beaucoup. Et qu'est-ce qu'on pourrait apporter en plus que ça ? Et du coup, c'est comme disait Pierre tout à l'heure, c'est en cherchant des idées qu'on est tombé sur le concept de location. Et c'est vraiment en se disant, en se mettant face à notre ludothèque, où on a tous plus de 100 jeux, et où tu fais le bilan de ton année et tu regardes et tu dis, mais en fait, j'ai peut-être 30% des jeux qui sont sortis, et encore, auxquels j'ai joué durant une année. Et pourtant, toutes les semaines, je continue à avoir des jeux qui sortent et je continue à avoir envie d'acheter de nouveaux jeux. Et donc vraiment, en faisant ce constat-là, on s'est dit, le système qui serait le plus simple et qui nous conviendrait le mieux, ça serait de la location. Et c'est pour ça qu'on est parti au tout début là-dessus.
Je vais et tout de suite, on l'a pas fait, mais effectivement, on a cité le nom, mais pour les auditeurs qui nous écoutent, qui veulent aller voir à quoi ça ressemble, allez sur Internet, sur pulpolido.com, donc P-U-L-P-O. Ludo.com, où on vous trouve facilement sur Facebook aussi, pour avoir une idée du projet.
Alors, depuis quand existe ce service ?
Vas-y.
Alors, on a commencé à lancer vraiment le service de location en septembre-octobre dernier. Donc, ça fait plusieurs mois là actuellement que ça dure. On commence également aujourd'hui à démarcher les entreprises, les CE, pour proposer un autre type de service également. Donc, on loue aux particuliers depuis septembre et on développe l'entreprise, l'activité là depuis quelques semaines.
Et puis régulièrement, on peut vous retrouver dans des cafés, vous faites des animations dans des bars et des cafés à la fois pour aussi pour faire connaître votre activité.
C'est ça. En fait, il y a quelques mois, du coup, au mois de novembre, on s'est lancé dans ces cafés pour se faire connaître. Et on s'est rendu compte d'un autre truc, c'est que ça marchait super bien. Les gens étaient super contents de venir dans ces cafés pour découvrir de nouveaux jeux. Et il y avait des gens qui commençaient à nous suivre. Du coup de bar en bar et
ça peut être inquiétant hein.
C'est peut-être pas forcément pour les jeux hein.
Moi ils m'ont dit que c'était pour les jeux en tout cas. Mais du coup on s'est dit qu'il y avait aussi quelque chose à développer à ce niveau-là, que ça correspondait aussi à ce qu'on cherchait à faire, c'est démocratiser le jeu de société. Donc c'est pour ça qu'on, comme expliquait Pierre, on a lancé cette partie plus animation. Et donc qui évolue en parallèle de la location, où on intervient dans des bars. On a pour objectif d'intervenir aussi dans tout ce qui est entreprise, pour faire des team building ou des moments de cohésion d'équipe.
Je n'importe quoi, même des EHPAD, enfin, ça peut être absolument tout. Parce que effectivement, c'est un donnant pour les bars, parce qu'il y a eu des soucis, on ne pouvait pas faire de concert, on sait pourquoi, pendant quelques mois. Et il y a pas mal de bars qui organisent de plus en plus ce type de soirée, parce qu'ils n'ont pas forcément le droit de jouer de la musique. Dans certains quartiers, ça peut être un peu plus compliqué, ou c'est très réglementé. Et soit ils le font eux-mêmes, avec leur propre jeu, mais ils font l'avoir. Vous venez avec une solution, à la limite, vous venez avec vos propres jeux et vous vous occupez de tout. Quoi.
C'est exactement ça. C'est Justin qui s'en occupe.
C'est ça, c'est moi. Oh oui,
la prochaine date d'ailleurs, c'est quand
La prochaine date, c'est ce mercredi 16 à l'Archétype, place Simon Volant, à Lille. Voilà.
Et juste vendredi, en face de la mairie de Lille.
Juste en face de la mairie de Lille, ouais. Et vendredi soir à Roubaix, au Diffus. Voilà, on est là-bas à partir de 19h.
Il suffit de retrouver sur Facebook.
Exactement, sur Facebook, Instagram, on a toutes les informations sont dessus.
On va faire une petite interlude musicale et puis, vu qu'on commence à ouvrir le petit agenda, je vais en profiter pour enchaîner là-dessus. Alors, vous êtes venus avec une petite proposition musicale, chacun d'entre vous. Je vais commencer avec Bo Burnham.
C'est ça.
Alors, pourquoi ce choix? Parce que j'aime bien.
Je l'ai découvert, c'est mon frère qui me l'a fait découvrir. C'est à la base, il s'est lancé en tant qu'humoriste britannique. Et il a kiffé bout de la musique, de la composition, de l'écriture, il fait des spectacles humoristiques et autres. Il a d'ailleurs fait un spectacle qui s'appelle Inside sur Netflix. Donc là c'est un extrait en fait d'une musique qu'il a fait dans son spectacle.
Il s'appelle All Eyes on Me.
C'est ça.
Get your fucking hands up, get on out of your seats. All eyes on me, all eyes on me. Are you feeling nervous? Are you having fun? It's almost over, it's just begun. Don't overthink this, look in my eye. Don't be scared, don't be shy. Come on in, the water's fine. We're going to go where everybody knows everybody. Knows everybody. We're going to go where everybody knows everybody knows. Get your fucking hand up, get on out of your seat. All eyes on me, all eyes on me. Hey, go get your fucking hands up, get on out of your seat. All eyes on me, all eyes on me. Story. So 5 years ago, I quit performing live comedy because I was beginning to have severe panic attacks while on stage, which is not a great place to have them. So I quit, and I didn't perform for 5 years. I spent that time trying to improve myself mentally. And you know what? I did. I got better. I got so much better, in fact,
that in January of 2020, I thought, you know what, I should start performing again. I've been hiding from the world, and I need to re-enter. And then, the funniest thing happened. Are you feeling nervous? Are you having fun? It's almost over, it's just begun. Don't overthink this, look in my eye. Don't be scared, don't be shy. Come on in, the water's fine. You say the ocean's rising, like I give a shit. You say the whole world's ending, honey, it already did. You're not gonna slow it, heaven knows you tried. Got it good, now get inside. We're going to go where everybody knows everybody knows everybody, huh? We're going to go where everybody knows go. Get your fucking hands up. Get on out of your seat. All eyes on me, all eyes on me. Hey, come on, get your fucking hands up. Get on out of your seat. All eyes on me, all eyes on me. Get up. I'm talking to you. Get the fuck up! Get your fucking head up. Get on out of your seat. All eyes on me. All eyes on me. Hey, fuck it. Get your fucking hands up. Get on out of your seat. All eyes on me. All eyes on me. Yeah, come on. Hands down. Pray for me. Hands down. Now. Pray for me. So get your fucking hands.
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM et DAB+. Une conversation animée. Même hors antenne. Alors la musique, c'était Bo Burnham avec All Eyes on Me, avec l'album qui s'appelle Inside. Donc nous sommes avec les membres de Pulpo Ludo, que vous pouvez retrouver sur leur site pulpoludo.com, P-U-L-P-O-L-U-D-O. Or, Ludo comme ludique, je suppose.
Exactement, oui.
Et Pulpo comme...
Le jus de fruits, non?
On nous a fait souvent, ouais.
Bah oui. Bah ouais.
En gros, l'idée à la base, c'est qu'on voulait une mascotte, on voulait avoir un animal. On a pas mal réfléchi, on a eu plusieurs suggestions, et on est parti sur le poulpe, parce que bah, on aimait bien le principe des tentacules en fait, qui déversaient sur toute la France, qui livraient sur toute la France.
Ça nous a fait peur, là, d'un coup.
Non, c'était l'idée, c'était de livrer sur toute la France, donc ça s'ouvrirait au national. Et bah, après, un animal marin, pour le côté après, tout ce qui est métaphore sur l'océan ludique, la perle rare, le jeu rare, voilà, c'est là-dessus qu'on est parti.
Alors, nous avons, juste avant la musique, commencé à parler un peu d'agenda. Et il y a une tradition, en plus de demander un peu le parcours de nos invités, c'est de le parcours de Dominique ce week-end. As-tu fait des petites découvertes ou des expositions ou autres?
La première fois, j'ai commencé vendredi. Ben, vendredi, il y avait... c'était la fête du slip. Alors, c'était la fête du slip à Lille. On a déjà parlé, le concert caritatif organisé par nos amis du Carpodium. C'était au café de citoyens à Oisem, le café des Sarrasins, avec des groupes qui jouaient. Et le principe, c'est que le concert est gratuit et tu payes en amenant des sous-vêtements neufs, bien sûr, pour hommes, pour femmes, des soutiens-gorge, etc., qui seront donnés au SAMU social, qui va ensuite les redistribuer aux sans-abri. Parce qu'on pense toujours à leur donner de la nourriture ou des pulls, des couvertures, des sacs à dos, mais entre un pull à 200 euros en cachemire ou même un pauvre slip neuf à 2 euros, je pense que bon, le slip est plus confortable.
Ouais, j'échange mon slip contre ton pull en cachemire, alors voilà. Y a pas de problème.
Et donc, et le prochain rendez-vous, c'est le 1er avril, le prochain concert. Je ne sais plus dans quel café, mais on l'annoncera d'ici là. Même principe, des groupes qui viennent jouer gratos et on paye son entrée avec des sous-vêtements. Donc ça, c'était vendredi. Mais c'était, il y avait là aussi la fête du slip chez Amazon, ce que je l'avais annoncé récemment, le lancement de leur nouveau jeu Lost Ark. Et comme d'habitude, bien sûr, ouais, on lance à 18h. Bon. T'as pu jouer à 1h du matin, tu pouvais éventuellement jouer. Quoi.
Parce que les gens avaient abandonné.
Oui, c'est ça. Et pourtant, c'est Amazon. Ils s'y connaissent en serveur. Hein, tout. Et oui, parce que c'était le lancement gratuit. Mais, donc là, le jeu tourne, il est en free-to-play. Tant de bien, j'ai encore joué ce matin, ça va bien. Donc c'est Lost Ark, édité par Smilegate, mais hébergé par les serveurs d'Amazon, gratuitement.
On voit qu'ils mettent le point sur la table et deviennent quand même un acteur qui commence à se faire connaître.
Ils avaient fait un essai il y a quelques mois avec un autre jeu, un autre MMO qui s'appelait New World, ouais, qui s'est légèrement planté. Mais il faut dire que New World, c'était un jeu qui partait de rien, quoi. C'était le premier lancement, tandis que là Lost Ark, c'est un jeu qui existe depuis plus de 3 ans en Corée et en Russie. En gros, le jeu, il y a pas de bug. C'est agréable d'avoir un jeu qui est fini quand il sort, ce qui est pas toujours le cas, hein.
T'as pas mal d'Européens, dont Français, qui jouent déjà sur les serveurs coréens ou russes,
c'est ça.
Avec des patchs anglais ou autres, enfin, ils se démerdent, quoi.
Et donc là, ils sont bien contents d'avoir le contenu, jeu. Il y a du contenu pour des heures et des heures et des heures. Il y a pas comme un WoW qui se lance et où t'es obligé d'attendre au bout de 3 mois qu'il y ait des nouvelles choses qui rajoutent. Là, c'est un jeu.
Donc voilà. Ouais, sa sortie était quand même plus ou moins complet.
Non, parce qu'il y a eu, bah oui, ils en sont là bientôt la 10e extension, donc ça prouve qu'il n'est pas fini, quoi. Enfin bref. Ouais,
mais justement, après autant d'années. Ma grande question, ensuite... c'est, attends, tu parles de la fête du slip. C'est mais ça. Est-ce qu'on a des petites infos sur une future fête du flip ?
Non, j'ai discuté avec Ludo, le président de Carpodium, et tout. Bah, pour l'instant, ils sont un petit peu, avec le confinement, enfin avec les restrictions sanitaires, et ils ont un petit peu de mal à avoir une vision à long terme pour les prochaines sorties. Mais donc, pour l'instant, de toute façon, on en reparlera dès quelque chose d'annoncé. On les suit. Le Carpodium, sur Facebook, à retrouver sur Facebook aussi. Samedi, donc, j'ai un petit peu geeké sur Lost Ark, donc normal. Et cet après-midi, j'étais à un événement qu'on avait annoncé, la journée médiévale, qui n'est peut-être pas terminée d'ailleurs, organisée par les Irrécupérables du jeu de rôle, une association de Vambrechy. C'était à Quesnoy-sur-Deule, dans la salle Festival. Et marché médiéval, donc il y avait cracheurs de feu, des conteurs sur scène, il y avait plein de boutiques. On a retrouvé notamment des gens qu'on connaît, hein. J'ai retrouvé Thierry de Till Games, qu'on recevra bientôt, puisqu'il va organiser son propre salon les 2 et 3 avril au même endroit. Donc ça s'appellera Dull en jeu, mais on le recevra dans 2 semaines pour en parler. Il y avait quoi ? J'ai retrouvé mes âmes papiers, une jeune femme qui fait des pliage, on l'avait reçu à la radio. Enfin, il y a plein de gens, j'ai l'impression de croiser toujours les mêmes gens. Il y avait de tout, des gens qui créent des costumes, il y avait du jeu de rôle, il y avait des créateurs de bijoux, etc. Enfin, c'est impressionnant. C'est le seul endroit où j'ai pu voir un cracheur de feu et un compteur discuter de leur facture URSSAF. C'est très amusant, ce genre de festival, j'adore. Tu croises des enfants, les gamins, si tu venais avec tes enfants, ils pouvaient se défouler dehors, faire des combats d'épée, etc. Enfin, c'est toujours très sympa, ce genre de festival. Donc des belles découvertes. Et je crois que c'est à peu près tout.
On
fera l'agenda à venir tout à l'heure peut-être.
C'est ça, et dans l'agenda de la journée, on vous rappelle aussi l'émission qui parle un peu geek avec le Twitch Café.
Tous les dimanches 10h.
Voilà,
donc, en direct sur Twitch.
Et oui, la technologie s'invite à Radio Campus avec des émissions qui sont filmées grâce à Twitch Café. Alors là, ici, c'est un podcast qui...
Il recevait deux podcasteuses de la région qui ont un podcast qui s'appelle Codex, Codexes, et qui parle des personnages féminins fictionnels. J'ai posé la question, en plus, moi, je regardais en direct. C'est pas des héroïnes, forcément. Hein. Il n'y a pas de Lara Croft ou Sarah Connor. C'est vraiment des personnages qu'on retrouve dans tous les domaines. La bande dessinée, les romans, les jeux vidéo, vintage ou pas. Et ce sont les personnages féminins. Et elles arrivent à en parler pendant plus d'une heure, des fois. Les podcasts font entre 1 heure et 2 heures. Donc, c'est assez sympa. Mmh.
T'as le plus emblématique, c'est dans Metroid, quoi. Quand tu gères Samus et que tu apprends bien à la fin du jeu que c'est une femme. Et qu'au début, tu penses que c'est un mec qui joue. Tu penses jouer un personnage brut et t'apprends le fin. Tu renverses complètement le codex.
On peut retrouver donc le podcast Codex, donc CODEX, sur n'importe quelle plateforme. Il y a déjà 58 épisodes enregistrés. Et donc l'émission de ce matin, c'est sympa parce qu'elle parlait, on pouvait poser des questions, elle parlait aussi de la façon dont elles font ce podcast et donc dont elles se renseignent, dont elles se documentent sur les personnages féminins pour en parler. C'est intéressant à suivre.
Alors, on va revenir à Paul Ludo. Alors, on parlait de jeux société. Est-ce que ça s'élargit également au domaine peut-être du jeu de rôle ou du wargame, pas encore ?
Alors, pour l'instant, non. Pour l'instant, on est vraiment concentré sur le jeu de société moderne. Mais à long terme, on ne sait pas. On verra.
Est-ce que vous avez des critères de cible, enfin, quel public vous visez, de quel âge à quel âge, en fait, je pense. Parce que s'il y a une famille qui a que des enfants de 3 à 5 ans, est-ce qu'ils ont aussi des conseils et une offre adaptée, par exemple ?
Alors, on va être, dans les faits, on va avoir trois audiences différentes. La première, ça va être effectivement la cible familiale. Donc, on peut imaginer une famille avec des enfants de tous âges. Donc, effectivement, des enfants à partir de 4-5 ans qui joueraient avec leurs parents, comme en fait des familles avec des parents de 60 ans ou plus et des enfants qui reviennent manger à la maison le dimanche midi. Donc, c'est une première cible. On s'adresse également aux couples, donc aux personnes qui jouent vraiment exclusivement à deux. Parce qu'il y a énormément de jeux qui se jouent également rien qu'à deux. Ça permet d'avoir des moments privilégiés comme ça pour changer d'un film ou de je ne sais quelle activité. Et on a également une troisième cible, ça va être ce que nous on a appelé une personne qui serait capitaine de soirée. Donc une personne en fait qui, comme ce que nous on peut être, la personne qui est toujours connue pour rapporter ses jeux, qui est un peu extravertie, qui présente ses jeux, qui dit j'ai un nouveau jeu à vous faire tester, c'est cool, et
on
qui
voit
est
pas
connue
du tout
pour
qui
ça.
Tu parles.
Je sais pas non plus.
Oui, c'est ça, j'avais expliqué, j'ai une soirée. Tu peux venir avec 2-3 jeux, voilà, ouais. Avec 2-3 valises de jeux.
Exactement, voilà, c'est exactement ce type de public là également.
Alors, justement, j'ai une limite dans l'âge, dans le public visé, mais aussi dans est-ce que vous avez fait une présélection de jeux, mais j'imagine que, puisque c'est deux jeux que vous allez louer, envoyer par la poste ou par un livreur, etc., j'imagine que vous n'allez pas prendre, on parlait de jeux de wargame, non, tu vas peut-être pas envoyer des boîtes avec des milliers de composants dedans, où il faut que ça soit des composants de bonne qualité, des choses solides. S'il y a un jeu de cartes où il y a peut-être une carte qui est perdue, ça peut ne pas être très grave, quoi, mais il faut que ça soit des composants, et aussi une boîte pas trop grosse, forcément, où les composants sont de bonne qualité.
Ça, en fait, ça dépend complètement du profil de la personne qu'on a en face de nous. Si c'est un profil de joueur plutôt expert et qui aime les gros jeux avec beaucoup de figurines ou ce genre de choses, on peut lui envoyer ce type de jeu. Mais c'est simplement qu'on lui enverra moins de jeux, du coup, qu'un joueur qui joue plus à des jeux d'ambiance et qui, du coup, sont des petits jeux. Et après, par exemple, là tout à l'heure, tu parlais de jeux où si on perd une carte, c'est pas grave. On envoie par exemple les Unlock, où si on perd une carte, là c'est très grave.
Unlock, c'est très embêtant.
Oui. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on contrôle les jeux à chaque fois qu'on les récupère pour vérifier qu'ils soient complets avant de les remettre dans le circuit.
J'ai vu qu'ils subissaient une petite quarantaine en ce moment quand vous récupérez les jeux.
T'es obligé. Hein.
Ouais. En fait, c'est ce qui avait été mis en place dans les bars à jeux, notamment, avec le Covid. C'est un jeu qui est joué. Derrière, on le met en quarantaine pendant... Alors, au début, ils étaient partis sur une semaine. Maintenant, ils sont sur 4 jours. Et pendant 4 jours, on n'y joue plus. Ça permet de le décontaminer tout seul sans devoir à chaque fois utiliser des produits qui abîment forcément les jeux. Et voilà, c'est ce qu'on fait aussi.
Oui, parce que techniquement, les jeux, donc vous allez utiliser un service de livraison pour les envoyer, donc c'est pareil, et peut-être éviter les jeux trop lourds, enfin je ne sais pas si ça va réduire pour les livraisons, parce qu'il y a des jeux qui tiennent dans la poche, c'est très pratique aussi, et qui sont presque aussi bien que certains gros jeux. Donc j'imagine que vous préférez privilégier ce type de jeu. Alors, c'est du détail, mais...
Comment on souscrit ça? Ça marche par abonnement? Ça marche par... c'est du one-shot?
Alors c'est de l'abonnement, donc c'est un abonnement mensuel. Donc tous les mois, l'abonné va payer 15 euros sur l'île ou 19 euros partout en France. Donc 19 euros, en fait, on comprend aussi les frais de livraison, aller-retour. Donc en fait, l'abonné paye 15 euros ou 19 euros selon où il est localisé. Et ensuite, il change de jeu quand il veut. S'il veut changer de jeu toutes les 2 semaines, tous les mois, tous les 2 mois, 3 mois, il nous envoie simplement un petit message. Il nous renvoie la box et nous, on lui refait une nouvelle box pour qu'il profite de nouveaux jeux, en fait.
Le but pour nous, avec Poulpouludo, c'est que le service soit le plus simple possible pour nos abonnés. Donc vraiment, il n'y a pas d'engagement. Il peut changer de jeu quand il veut, du coup ça s'adapte à des gens qui jouent, qui vont vouloir changer de jeu rapidement, d'autres qui vont vouloir les garder longtemps pour aller en profondeur dans le jeu.
Vous détectez quelqu'un qui commande toujours le même jeu, vous lui dites vous n'avez pas de petite facilité pour l'acheter à force, vous faire de leasing peut-être.
Oui, effectivement, en fait ce qu'on propose, c'est si le jeu a plu à nos abonnés, on peut lui vendre d'occasion Donc celui qui l'a reçu en fait. Après c'est pas quelque chose qu'on pousse le plus parce que ce qui nous intéresse en priorité c'est faire de la location, faire tester des choses et faire découvrir de nouveaux jeux. On est vraiment sur la partie découverte où nous ce qui nous importe c'est quand l'abonné s'inscrit, il remplit un petit questionnaire qui nous permet de savoir ses goûts et ses envies et derrière du coup grâce à ça nous on va pouvoir lui recommander des jeux et à chaque fois en fait qu'il va changer de box il va aussi évaluer les jeux qu'il a reçus. Et grâce à ça, ça nous permet de nous améliorer au fur et à mesure et d'être de plus en plus pertinent dans notre conseil.
J'imagine que ça va aussi beaucoup intéresser les boutiques et les éditeurs.
À long terme,
ce
peut-être.
Ce genre d'information, parce que j'imagine qu'ils ont leur propre service d'enquête, façon de parler, de retour de clients et de joueurs. Ils font là. C'est aussi une des raisons pour laquelle vous allez à Cannes dans 2 semaines, au Festival de Cannes, pour rencontrer notamment les éditeurs. Mais j'imagine que c'est quelque chose qui va beaucoup les intéresser.
J'imagine aussi, pour l'instant on n'en a pas encore discuté avec eux, nous on est encore au tout début, je pense qu'on n'est pas encore trop connu dans le milieu forcément, donc là l'enjeu de Cannes ça va être aussi de rencontrer un peu tous les acteurs et voir comment on peut tous travailler ensemble.
Parce que je ne me souviens pas avoir vu un système de ça, d'abonnement et location, je me souviens qu'il y a quelques années qu'on les voyait sur Festival, je ne sais plus comment ça s'appelait, un service qui envoyait des box. Là par contre c'était des box, comme on connaît tous les box, on s'abonne, je ne sais pas, 20 euros, puis chaque mois on reçoit des jeux, mais enfin on les garde, là c'était des jeux, il y avait des revues peut-être, ou ce genre de choses, là c'était pas un service où on renvoyait, donc je les vois plus, donc oui, une espèce de pochette surprise quoi.
Donc là, Oh, excuse-moi, je te coupe.
Comme il existe pour des services de box, pour les bières, pour les livres, la nourriture pour animaux, il y a à peu près tout dans ce domaine-là qui existe. Alors je ne les ai plus croisés depuis longtemps sur le festival, donc.
Il y en a trois.
Sur Internet, ça pullule.
Il y a trois gros acteurs dans le jeu de société qui font des box. Et nous, on a des concurrents aussi. Hein. On va pas le cacher.
Oui, justement, c'était une des questions qui me taraudait et que j'allais dire une fois que vous aurez fait la présentation complète de Poulpo Ludo. Mais vu qu'on en parle, vous faites du conseil et de la location en envoyant une box. Donc ça fait quand même 3 thématiques sur le jeu de société que vous proposez. Et j'ai regardé un petit peu ce qui se passait à droite à gauche. Et il y a par exemple récemment, quand je dis récemment, c'est il y a quand même 1 ou 2 ans, voire 2019, donc même 3 ans, il y avait le Grenier Ludique qui le proposait. Je crois qu'il y avait Coludique aussi, mais ça c'était au niveau québécois de mémoire, où il avait commencé au Canada, puis après ça s'est intégré un peu en Europe.
Oui, c'est ça, c'est des projets aussi un petit peu mouvants, qui ont beaucoup été bouleversés par le Covid aussi, voilà. Faut pas se le cacher.
Et après, il y a eu, pareil, j'ai retrouvé 36 noms de, entre guillemets, ventes de box, comme Ludofurie, Magludique, et compagnie. Et donc, en fait, pour que les auditeurs se disent, c'est encore un énième artisan de. Ils veulent nous retirer de l'argent pour nous envoyer des box. Justement, préciser le petit apport que vous faites par rapport à tout ça. Quoi.
Alors, par rapport au Grenier Ludique, le Grenier Ludique, c'est des particuliers, c'est de particulier à particulier. Coludique, c'est pareil, c'est particulier à particulier.
Je crois qu'à la base, c'était même de l'organisation de rencontres ou d'échanges entre joueurs plus qu'autre chose.
Un peu plus dans Coludique. Ouais. Mais,
Parce que tu vois, même dans MyLudo, tu as une gestion de prêt, comme dans une base de données, que ce soit de BD, de cassettes, ou de ce que tu veux. Donc, voilà, montrer la différenciation entre vous et les autres pour montrer.
Là où nous on essaye de se différencier, c'est surtout sur la partie. Déjà, c'est de la location auprès d'une entreprise. Donc, on est sur un système où nous, on a beaucoup plus de références et où tu as accès à un plus gros catalogue. En fait, le Grenier Ludique, tu es un peu dépendant des personnes qui sont autour de toi et de ce qu'elles veulent bien mettre en location. Nous, on axe aussi beaucoup sur la partie recommandation et découverte de nouveaux jeux. Notre vraie volonté, c'est faire découvrir de nouveaux jeux à nos abonnés suivant leur profil. Et donc faire découvrir, Pierre va avoir recevoir certains jeux parce qu'il a un certain type de profil, Justin un autre type de jeu parce qu'il a un autre type de profil. Et souvent, les box, c'est des experts qui vont sélectionner des jeux et qui les envoient ensuite à tout le monde. Donc il y a cette partie sélection, mais tout le monde reçoit la même boîte. Alors, il y en a 3-4 différentes. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être beaucoup plus personnalisé. grâce justement à ces questionnaires et au retour d'expériences qu'on a de box en box.
Oui, parce qu'il ne faut pas cacher que l'un des avantages de ce type de service, du vôtre entre autres, c'est que acheter un jeu, même si on se limite à acheter un jeu par mois pour sa famille ou pour ça, il y a des jeux qui commencent à 10 euros, il y a des jeux, ça va jusqu'à 50, 100, on ne parle même pas des Kickstarter. Mmh. Donc dépenser 15 euros, je ne sais pas, par mois pour avoir des jeux qui changent régulièrement, parce que voilà, j'achète un jeu, même si je ne le paye que 10 euros, s'il reste 10 mois et que je le sors qu'une seule fois par an pour jouer avec, bah c'est pas presque 10 euros de perdu, quoi, on va dire.
Mais enfin, globalement, les jeux, ils sortent 3-4 fois et puis après, on les sort plus, sauf ceux qu'on aime vraiment et qu'on sort beaucoup.
On les revend, mais à perte.
Mais voilà, ouais, on les revend, on fait plein de choses. Et encore, nous, je pense qu'on est des gros joueurs, donc on les revend. Il y en a beaucoup qui même les stockent au final.
On a ça, l'esprit de collection. Alors, un peu de musique, on enchaîne. Alors, j'ai une autre proposition de Rag and Bone Man.
Alors ça, c'était la mienne. Mais alors, j'ai plus avoir de mal à justifier par rapport à Justin.
C'est juste une
musique que j'ai l'habitude d'écouter. Et donc, quand tu nous as demandé de sélectionner une musique, ben voilà, j'ai mis celle-là. C'est une de celles que j'écoute le plus.
Human.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Some people got the real problems, some people out of love, some people think so dumb, Lord heavens above. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems, some people out of love, some people think I can solve. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me.
Rag and Bone Man avec Human sur Radio Campus en 6,6 FM et DAB+. Nous sommes avec les cofondateurs, j'y suis arrivé, de Poulpo Ludo avec Victor, Justin et Pierre, afin de parler un peu de ce projet de location et de jeux de société. Alors on l'a détaillé en en fond et en...
Poulpoludo.com pour avoir toutes les informations.
Voilà. Alors, on a parlé tout à l'heure un peu du festival de Cannes avec l'As d'Or. Et vous le savez, ces dernières semaines, nous avons parlé notamment donc, des différentes catégories, à savoir la catégorie jeune.
Enfant.
Oui, enfant, jeune. La catégorie du jeu de l'année, qui pour le coup était un peu pour tout le monde. Hein, est-ce que c'est vraiment notifié famille? Mais voilà, c'est une catégorie à part. Et cette fois-ci, je vous propose d'attaquer la catégorie initiée. Et ça tombe bien, puisque nous avons des experts du jeu de société avec
nous. Ah ouais, donc on ne fait pas la catégorie expert pour les experts. Non. On fait la catégorie initiée pour les experts. Ok, ça marche.
Mais puisque justement, parce que je pense que lorsque vous avez créé cette société, vous êtes dit, bah tiens, on va cibler une partie du public. Alors forcément, les consommateurs experts de jeux de société étaient peut-être une des cibles principales. Mais est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment ceux qui demandent le plus? Est-ce que on...
Bah, en fait, justement, ouais, quand on a monté la boîte, on a calqué en fait notre persona à nous, en fait. Donc c'était vraiment un persona expert. On a testé le service et on s'est rendu compte effectivement que l'expert n'était pas forcément intéressé par la location de jeu. Donc du coup en fait notre cible, enfin maintenant on l'a appelé notre audience d'ailleurs, elle a beaucoup évolué. Et là on se dirige plus vers le joueur casual en fait qui veut s'initier au jeu mais qui se retrouve plus dans toutes les références qu'il y a.
Qui n'a pas envie d'acheter des armoires chez Ikea pour stocker des
choses. En fait, qui n'est pas collectionneur. Ouais. Est pas forcément, il est plus là pour vivre une expérience. Pour vivre un moment avec ses amis, mais pas forcément pour collectionner des boîtes.
Puis maintenant, tu as des jeux qu'on dit jeux enfants, jeux familiaux, quand normalement tu sors pour jouer avec tes parents, tes grands-parents, etc. Après, tu as les jeux experts. Maintenant, on parle aussi de jeux familial plus.
Ouais.
Tout ça. Donc, est-ce que les personnes vont commencer à se dire comment je m'y retrouve?
Sans parler de tous les catégories aussi, c'est tous les jeux éphémères. Bon, on parlait d'Unlock tout à l'heure, tout ce genre de jeu. Ouais. Tu l'as acheté, tu le joues.
Tu joues une fois.
Soit tu le revends, soit tu l'offres. Donc là, avec votre service, c'est parfait. Je peux le louer et j'y joue une fois et je suis tranquille.
Alors du coup, la catégorie initiée se colle parfaitement à votre sujet. Alors, on peut commencer avec le premier nominé ici, c'est Living Forest, un jeu de Aske Christiansen. Distribué par Black Rock Games. Alors, est-ce que déjà, vous avez pu voir ou tester ce jeu?
Alors, j'ai tendance à veiller, justement, je suis nos très chers amis de chez Ludovox qui présentent toujours des excellents jeux comme ça. On n'a pas eu l'occasion de tester les trois jeux. On adorerait ça et pour le coup, on galope pour tester un maximum de choses. Living Forest, personnellement, me fait extrêmement envie parce qu'on est sur un jeu avec un thème forestier. C'est très verdoyant, c'est un peu engagé, on va dire, environnement. C'est très beau. C'est des mécaniques, moi, que j'aime bien.
Avec un côté fantastique, où on va avoir des créatures et des animaux.
Avec, ou des fleurs pop sur les animaux que tu invoques.
Les illustrations, c'est très, très beau. Façon, on le sait depuis des années, les illustrateurs, en matière de jeu, il y a un niveau qui a été gagné. Quoi.
C'est illustré par Apolline Etienne. Alors, du coup, ici, on va être sur une sorte de deck building, mais qui change un peu des...
Une course en tant que deck building,
Donc là, a priori, il n'y a pas tout le côté « il faut juste que je pioche un maximum de choses pour juste jouer 20 cartes par tour ». Il va y avoir effectivement d'autres mécaniques avec. Et ça, c'est pour ça aussi que le jeu est très intéressant, c'est que le deck building est un peu complété par d'autres choses. Et ce n'est pas juste une course à « je récupère les meilleures cartes possibles ». Il y a d'autres choses également, il y a plusieurs façons de gagner.
Ouais, parce qu'on parle de course, parce que c'est là où tu dois être le premier à avoir fait une des conditions de fin de partie.
Voilà. Et comme elles sont différentes.
Ce qui est bien, c'est que même si tu ne gagnes pas le jeu, même si tu es dernier, tu as quand même construit ton petit plateau, façon de parler, puis tu as construit ton petit univers, tu as construit quelque chose. Quoi.
Tout le monde joue en même temps, donc le côté initié fait qu'on peut arriver sur le Familial Plus, où tu n'as pas de temps mort, où tu dois attendre ton tour. Donc... Juste le côté beau.
Bah, cela dit, ce que tu viens de dire sur le fait de ne pas forcément gagner un jeu, mais de construire sa petite construction personnelle, ça peut être aussi appliqué à n'importe quel jeu, Asdor ou non. Pour le coup, c'est aussi là-dedans qu'on peut trouver son plaisir. La victoire n'est pas forcément la seule condition de plaisir.
À la fin de la partie, tu regardes, j'ai quelque chose devant moi. Je n'ai pas perdu tous mes pions ou mon argent, ou mes hôtels ou mes maisons.
C'est important de se fixer ses propres objectifs.
Je ne suis pas ruiné en prison. Voilà.
Ce qu'on appelle la mentalité du perdant, d'ailleurs.
On joue tous pour des raisons différentes.
Un deuxième jeu, c'est All Tray, avec deux œufs. Un jeu d'Antoine Boza et de John Grumpf.
Bah là, t'as tout dit, là, de toute façon, t'as dit Antoine Boza, John Grumpf, c'est vendu. Le jeu, il va se vendre à des millions d'exemplaires à travers le monde, hein, c'est obligé.
Illustré par Vincent Dutré aussi.
Voilà, voilà, t'imagines, voilà. Voilà, je vais monter une équipe de foot, je prends Ronaldo, Messi et troisième, on s'en fout de toute façon, voilà. Et c'est tout, c'est que tu vas avoir des spectateurs et des gens qui vont acheter des maillots par dizaines, donc c'est vendu.
C'est édité par le Qatar, c'est ça?
Presque, pas encore. Mais si un jour le PSG par exemple veut monter une équipe de créateurs de jeux, tu es sûr que tu vas retrouver ces noms-là, quoi. C'est obligé, tu auras du mercato.
Surtout il manque que Bruno Catala.
Et ça va être plus dur à recruter, lui. Lui, ça sera l'entraîneur, tu vois.
Surtout que All Tray est tiré du jeu de rôle portant le même nom.
De John Grumpf.
Voilà. Donc, qui est un jeu, on va dire, narratif, mais collaboratif, narratif.
Voilà, c'est du jeu de rôle. Nouvelle façon, oui.
Ouais. Un mélange de, on va dire, de Andorre et de... Comment il s'appelait le jeu?
C'est bon, je l'ai acheté le jeu, là, tu peux arrêter. Hein.
justement, le jeu d'Antoine Boza.
Ghost Story.
Ghost Story, voilà. J'ai cherché la nouvelle édition qui est Bastion.
J'ai revendu mon Ghost Story, justement. Ouais. Donc.
Bah, c'est un mélange, j'ai l'impression que c'est un mélange de ça, de Andorre et de Ghost Story, et qu'ils ont réussi à faire quelque chose où les joueurs vont quand même essayer de se raconter quelque chose, de faire une petite aventure, avec là, potentiellement de risquer de perdre, pas forcément des actions, mais du prestige, et que s'ils perdent trop de prestige ou trop de temps, ils perdent la partie. Mais ils auront des actions et des choix à faire, tout en se racontant une histoire, avec par chapitre, avec des livres, avec des pages qui se tournent et tout. Donc, voilà.
C'est ça aussi qui est très chouette avec ce style de jeu qu'on a vu apparaître au fil des années, comme tu citais Andorre. C'est extrêmement intéressant de voir aussi ce rapprochement avec le JDR, avec le jeu de rôle, parce que du coup, le jeu de rôle, ça a toujours eu cette image de truc pour alien qui s'enferme dans sa cave. Et justement, ce style de jeu, ça permet de... J'ai pu en faire quelques-uns. Ça permet d'aller justement, d'amener à ça petit à petit, au moins de faire une liaison.
Et typiquement, tu peux le sortir à une réunion de famille où ça va de 10 à 70 ans, quoi. Bien sûr. Avec des gens qui ne jouent jamais. Par contre, ce jeu-là, je ne suis pas sûr que vous le proposiez, parce que ce genre de jeu à épisode... pour des... ou alors, à moins que la personne le reloue chaque semaine pour faire l'épisode suivant...
Après, ça lui permet au moins de le découvrir.
Et de l'acheter éventuellement.
Voilà. Et puis après, voilà. Elle peut l'acheter.
Ça, c'est un jeu, voilà. Quand tu vois les illustrations et la boîte, tu le mets dans ta bibliothèque au milieu de tes livres. C'est magnifique.
Et après, on a des abonnés aussi qui aiment bien ce genre de jeu narratif où ils vont enchaîner les parties.
Ils vont tout faire en un week-end, bah, c'est ça. Un petit marathon All Tray.
Peut-être pas en week-end, mais qui vont.
ouais. Après, on disait aussi que l'abonné, on le laissait faire ce qu'il voulait. Ben, ouais. Typiquement, il pourrait recevoir une box. S'il reçoit le jeu All Tray, par exemple. Mais avec deux autres jeux derrière, il pourrait nous rendre juste les deux autres jeux puis garder All Tray pour sa prochaine location en fait. Et on lui ramène deux jeux puis ainsi de suite quoi. Donc il pourrait garder ce jeu-là précisément plus longtemps que les autres.
Alors de 2 à 4 joueurs et de la coopération comme on l'a indiqué. Ouais.
10 ans et plus, et on va dire une bonne heure de jeu minimum quoi, par partie.
Et dernier jeu ici, alors... Est-ce qu'on pourrait appeler ça un peu un ovni
Un ovni même, un objet ludique non identifié, effectivement.
Ouais. C'est Nouvelle Contrée, ouais. Un jeu de Germain Winzerstracht, puisque j'ai un super accent allemand, illustré par Jeanne Landard, et distribué par Novalis et édité par Olibrius Éditions. Ici, c'est un jeu...
Ça ressemble un peu au Dixit, par exemple, un jeu avec des cartes et des illustrations.
Et ça m'a fait penser à The Game. C'est
The Game.
Non. Non. On n'a pas le temps de t'expliquer pourquoi, mais non.
En fait, là, l'idée du jeu, c'est que le plateau de jeu, c'est un bouquin qu'on va trouver dans une bibliothèque.
Et il n'est pas fourni avec la boîte.
Il n'est pas fourni avec la boîte, non. Il faut sortir le livre de sa bibliothèque. Donc si on a une liseuse, c'est plus compliqué, mais c'est possible de se faire.
C'est original, quoi.
L'idée, en fait, c'est que les cartes sont des marque-pages. Et il va falloir en fait placer notre explorateur et un autre marque-page. Donc c'est vers une ville, je crois, qu'il faut.
Un campement, un explorateur et un des marque-pages qui est la fin de mission, on va dire, la fin de l'aventure.
Et en fait, l'idée du jeu, c'est de redécouvrir son livre. À la fin, il va falloir trouver une phrase qui va correspondre à notre aventure quand on aura passé de page en page. Et c'est à ça qui ressemble à Dixit, je trouve, c'est que quelqu'un va devoir lire une phrase du livre. Et en fait, ça va correspondre à une image d'un marque-page qu'il va devoir mettre dans le livre, ainsi de suite, et on va parcourir le livre au fur et à mesure.
Alors pourquoi moi j'ai dit The Game ? Parce que vous avez une série d'objectifs que vous allez devoir choisir et le remplir par rapport à ce qui va se trouver dans le bouquin. On parle pas du même jeu, bon. Non, mais...
okay. Si, en fait, t'as des... ce que tu veux dire, c'est que tu as des d'autres signés qui correspondent à des signés de mission et qui, par exemple, dire est-ce que la mission que toi tu vas choisir, c'est que quand le lecteur va lire ces lignes pour après que tu puisses choisir le marque-page de l'image correspondante, il va peut-être marquer que a-t-il va dire trois mots identiques, par exemple.
Tu pensais à The Crew, pas The Game.
Voilà, The Crew.
Ah, effectivement. Ah,
oui.
Okay. Effectivement, parce que pour moi, The Crew, c'est bien The Game. Ouais.
On est typiquement dans le jeu, parce que le jeu, il est à combien, 22,50€, Nouvelle Contrée, donc on est à peu près dans la même zone. Je pense que la boîte doit pas avoir la même taille. Je me demande si c'est même pas le même auteur, puisqu'il y en a un nom. Donc, oui, effectivement.
C'est son premier jeu à l'auteur.
C'est très tentant.
Et puis c'est le côté où tu peux ressortir des vieux bouquins que tu as envie de relire et que tu n'oses pas, par manque de temps et autres.
Et même au-delà de ressortir des vieux bouquins, c'est aussi peut-être un moyen de redécouvrir leur plaisir de lecture, qui est quand même un autre loisir décrié.
Pour faire venir les enfants de moins de 10 ans, tu fais ça avec des BD.
Ça marche avec l'annuaire ? Non, on trouve, ça n'existe plus l'annuaire.
Moi j'avais un gros doute, puisque c'est un jeu où vous allez pouvoir jouer à plusieurs, on va jouer avec un seul bouquin. Est-ce que si la personne n'a pas lu le bouquin, elle ne risque pas de se faire spoiler un peu ce qu'il y a dedans ?
Non, parce qu'en en fait, à chaque fois, tu lis que les 6 premières lignes de la page où tu te trouves.
Oui, bah, c'est suffisant pour me spoiler. Ouais, enfin,
non, mais toi, tu lis des nouvelles, toi. C'est pas... John, pourquoi tu as tué Thérèse ? Ah, bon, bah.
L'idée derrière le jeu, c'est redécouvrir un livre. Du coup, tu es censé l'avoir déjà lu aussi.
Mais c'est, ouais, c'est super, super intéressant.
En tout cas, moi, c'est le jeu qui m'attire le plus de la sélection.
Ouais. Pareil, j'ai envie de tester. Oui. C'est vrai que faire ça avec un petit Bilbo le Hobbit ou quelque chose comme ça, ça pourrait être extrêmement sympa.
Contrairement aux deux autres jeux, donc on va les rappeler. Donc, Oltrée, c'est, bon, faut quand même, il est à 60€. C'est l'histoire des minimes. Donc, c'est quelque chose, c'est avec un gros plateau de jeu. Donc là, il faut avoir une bonne table pour s'installer. Tu joues pas dans le train. Living Forest, là, c'est pareil. Il y a un plateau de jeu. Enfin, c'est des cartes. Donc, il n'y a pas un énorme plateau. C'est des cartes qu'on pose petit à petit, qu'on compose le décor, on va dire. Et Nouvelle Contrée, là, par exemple, typiquement, tu joues au café, quoi. J'imagine que les parties, voilà, c'est ça, ça va être une demi-heure à une heure. Tu sors le bouquin de ta poche, tu sors le jeu, puis on peut jouer à une table sans problème.
Avec des variantes pour des magazines ou des BD, peut-être.
À tester. Ouais. J'ai hâte de tester celui-là.
Donc je pense que tout le monde met ses pions sur Nouvelle Contrée.
Ouais.
Bah, régulièrement, dans les derniers grands concours, que ce soit le Spiel, etc., c'est toujours, comme par hasard, genre le premier jeu d'un auteur. Souvent, il y a eu quelques pépites qui sont sorties comme ça, et donc c'est où, et qui ont fait le buzz, et voilà quoi.
Comme tu vois, Oltrée, c'est, on va dire, des mix de jeux déjà connus. Living Forest, bah, ça reste des mécaniques à peu près déjà connues, mais il n'y a rien qui change niveau matériel. Enfin, ça reste, entre guillemets, sans être méchant, basique.
Est-ce que Antoine Bozin ne va pas remporter une médaille ? Incroyable !
Ouais, mais Nouvelle Contrée, tu as du matériel qui est adapté à la thématique du jeu. Ça fait intervenir un bouquin qu'on n'a pas l'habitude généralement de jouer, sauf si tu joues Petit Meurtre et Fait Divers, mais bon, là, ils sont fournis. Enfin, il y a tout ce qu'il fait pour dire que c'est quelque chose qui va ressortir et marquer le coup cette année.
Ils aiment bien primer l'originalité, et là, l'originalité est là.
Et puis en plus, tu vas mettre le jeu de société en avant, et aussi la lecture. Il y a tout ce qu'il faut pour avoir toutes les subventions d'édition possibles.
Non, tout de suite. Ah, la conspiration.
Alors, on arrive à la fin de cette émission. On va quand même donc rappeler poulpoludo.com. Alors, on peut rappeler votre prochain événement où on va pouvoir vous retrouver pour tester avec vous des jeux de société.
Donc, cette semaine, on a deux dates, donc le mercredi 16 et le vendredi 18. Le mercredi 16, c'est à Lille, place Simon Volant, donc c'est l'archétype. Mmh. Et le 18, c'est à Roubaix, le Diffus, juste en face de la gare Jean Lebas.
D'accord. Voilà. Donc, deux moyens de découvrir
de
un
tester
peu.
Des nouveaux jeux, ouais.
Voilà. Alors, en plus, soit on s'abonne à Poulpoludo et on va pouvoir tester chaque mois des jeux de société qui nous seront recommandés par une équipe d'experts, comme vous avez pu l'entendre. Et si jamais demain j'ai une société, j'ai une association et que je souhaite découvrir, faire des petites activités, des petits événements, comment est-ce qu'on procède ?
De la même manière, alors là, ce coup-ci, il faudrait nous contacter sur le mail contact@poulpoludo.com
un service personnalisé éventuellement.
Oui, et après, ça. Du coup, on construit l'événement ensemble pour.
Ça peut être des événements one shot, des événements réguliers. Enfin voilà, on construit ensemble. Enfin, on construit l'offre ensemble.
Qui que vous soyez, on vous bichonne quoi qu'il arrive.
dit seul la veille de la Saint-Valentin, tranquille et posé.
Alors c'est vrai, tiens, quel jeu est-ce que vous nous recommandez pour la Saint-Valentin?
King Size.
Il y en a un. Il y en a un qui marche très bien à deux, ça s'appelle T42.
Exact.
T42, ouais. C'est un jeu qui est basé sur l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et bon, c'est un jeu de deck building en fait assez basique, mais il joue très bien
à deux. Enfin, je dis basique. Jeu à deux, on en parlait tout à l'heure. Et les joueurs solo, ils sont touchés aussi?
Il y a des joueurs solo. Hein. Par exemple, il y a pas les Mainland. L'idée, c'est de se retrouver un peu comme Vendredi. C'est un jeu en solo aussi sur une île déserte.
Et Vendredi, qui est un très bon jeu en solo. Très vieux, ouais. En plus de Fredman Friese, mais qui reste indémodable en fait.
Incroyable. Ouais.
Après, moi, dans solo, c'est mon jeu préféré. C'est pour moi un très bon jeu aussi en solo. C'est Terraforming Mars. Il se joue très bien, il est beaucoup plus long, mais il se joue très bien en solo aussi.
Bah, déjà rien que le fait d'installer le matos.
Ouais, déjà, de base.
Après, en termes de jeu solo, vous avez le It's a Wonderful World qui propose des excellents scénarios. Et il y avait une initiative qui était excellente pendant le confinement de la part de plusieurs éditeurs, enfin de plusieurs maisons d'édition sur leur jeu. C'était de proposer gratuitement en PDF sur leur page Facebook ou leur site des règles adaptées justement pour du mode solo pour les personnes qui étaient isolées chez elles et qui ne pouvaient pas jouer. Donc vous pouvez aller les retrouver chez certains éditeurs. Je pense au Chakra par exemple de chez Blam, qui est mon jeu favori.
C'est vrai que j'avais sorti une excellente règle solo. Pensé pour le solo à la base, mais il y a plein de gens, soit les éditeurs eux-mêmes, soit des fans qui font.
Maintenant,
qui
c'est devenu la mode. Si tu n'as pas de règles ou de vraies règles solo qui sont mises dans le jeu lors de sa collaboration, enfin conception, pardon, il y a certaines personnes qui sont rebutées directement.
Surtout sur les Kickstarter. Ouais. Maintenant, c'est une obligation.
Voilà, Victor, Justin, Pierre, merci beaucoup
d'avoir
participé à cette émission. Dominique.
Un mini-agenda vite fait. Le week-end prochain, donc 19 et 20 février à Béthune, on avait déjà parlé du Béthune Rétro, du festival Béthune Rétro, et là c'est Béthune Rétro Vintage Gaming, ils ont appelé les Vintage Gaming Days, donc 19 et 20 février à la salle Olof Palme à Béthune. C'est gratuit, avec accès passe vaccinal bien sûr. Donc là, il y a de tout, il y a de Audi Flipper, des Baby Foot, il y a du cosplay, il y a du Just Dance, il y a des tournois de jeux de foot, il y a des écoles de jeux vidéo qui seront là, qu'on pourra rencontrer les professionnels, des youtubeurs, des gamers, etc. Donc à suivre.
Voilà, on se retrouve la semaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. On va se quitter avec un peu de jazz, funk, soul, avec Delvon Lamar Organ Trio pour leur nouvel album. C'est leur troisième et ils fêtent l'arrivée d'un nouveau batteur avec Dan Weiss. Le titre que j'ai choisi pour se quitter, c'est Pull Your Pants Up. Allez tout de suite sur poulpoludo.com et à bientôt. Portez-vous bien.
Ciao,
à plus. Au revoir.
Au revoir. Merci encore.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
Radio Campus Lille, il est 19h.